gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, c'est la causerie 444 et oui, ce soir c'est l'été et donc une émission spéciale avec les meilleurs moments de tes animateurs et le bêtisier de l'émission. Non, tout ça est faux.
On se croirait au camping là.
Bah ouais, non mais je faisais ça comme sur les chaînes de télé et les radios, là en ce moment ils font que de la rediff, où ils font des best-of. Et ben non, la causerie on est en direct et donc ce soir Jean-Yves est avec nous.
Bonsoir Fab,
Clara
et l'auditrice évidemment.
Bah oui, Clara est là aussi.
Bonsoir.
Voilà, et bon, moi je suis là.
J'ai dit.
Oui, il a dit. Oui, c'est pour ça que je dis bon, c'est bon, moi je suis là. Et voilà, donc du coup.
C'est incroyable, c'est l'ego qu'il a.
C'est ça.
Mais arrêtez.
Faut que ça cesse. Faut
que ça cesse, tout ça. Bon, en même temps, je vous le dis, parce qu'elle ne vous le dira pas, mais Clara va nous abandonner pendant quelques jours. Quelques semaines, quelques longues semaines.
On est plus proche des semaines que des jours.
Donc, par avance, nous nous excusons de la qualité médiocre de la technique dans les 4 semaines qui viennent. Voilà.
Vous y arriverez.
Mais oui, on y arrivera, mais ce sera pas aussi bien quand t'es là.
Mais c'est surtout qu'il dit ça alors que le gars, il fait jamais la technique.
Ouais, la semaine prochaine, je la fais, tiens. Et donc, du coup, lacauseriecanu@gmail.com si tu veux nous joindre, lacauseriecanu@gmail.com. Si tu veux réécouter toutes les émissions, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. blogs.radiocanu.org/lacauserie. Je crois que Jean-Yves veut changer de micro ou bouger le micro, mais voilà. C'est très stressant d'avoir quelqu'un qui fait des grands signes. Donc voilà. Et sinon, on est sur tous les trucs de podcast. Alors tu tapes La Causerie Canu et on est aussi sur des réseaux sociaux commerciaux. Tu nous trouves à La Causerie Canu. Voilà. Et donc tout ça pour dire qu'on est là une bonne partie de l'été et que nous ne serons pas là en fin d'été, a priori, et début septembre, voilà. Pour les auditrices et auditeurs qui le sachent.
Ben oui, qui calent leur propre programme sur nous, quoi. Enfin, je veux dire...
Non, c'était pas l'idée, mais c'est histoire de dire jusqu'à quand on était à peu près là, quoi. Jusqu'à mi-août, à peu près. Et donc, Jean-Yves, toi, tu vas commencer avec quelques...
Non, c'est bon.
Cette émission va être très compliquée.
Non, c'est bon.
Alors, je sais pas pourquoi. Moi, on sait pas pourquoi avec Clara. Mais Jean-Yves, on l'a remarqué ce soir. Il faut que tu te calmes. On n'osait pas te le dire. Mais là, on va te le dire. Et surtout, tu vas parler d'un sujet super,
oui,
sérieux.
Super sérieux.
Qui croise en même temps l'anarchisme et le pain. Et c'est quand même pas mal.
Et l'exploitation.
Ah oui, je l'avais oublié ce détail.
Effectivement, ce soir, hein, j'avais envie de vous causer d'une grève qui a lieu dans une entreprise pas comme les autres, enfin à ce qu'il paraît, à savoir La Conquête du Pain, qui est une boulangerie bio et autogérée qui se situe à Montreuil dans le 93. C'est une boulangerie qui a ouvert en 2010. Donc 12 ans d'existence, n'est-ce pas? Et qui tire son nom en fait d'un ouvrage de Pierre Kropotkine, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, qui était un penseur anarchiste. Alors les bases, hein, sont donc clairement inscrites dans une autre démarche que hiérarchie, bénéfices en crevé, inégalité et autres, qui dirigent en fait majoritairement toutes les autres entreprises. Et les boulangers, hein, se réclament, et les boulangères se réclament clairement du communisme libertaire et voient la boulangerie, hein, comme une expérimentation au service de la transformation sociale.
Jusque-là, tout va bien.
C'est ça. Sauf que le 13 juin, hein, apparaît sur le site Paris Lutte Info, un équivalent de Rebellion pour les Lyonnaises et Lyonnais et autres, le texte suivant que je vais vous lire. Bonjour à tous et toutes. On invite tous les collectifs, associations et toute la population montreuilloise à nous soutenir dans notre piquet de grève à partir de mardi 14 juin à 8h à l'adresse 47 rue de la Beaune à Montreuil. Nous, travailleurs et travailleuses de la coopérative La Conquête du Pain, décidons d'arrêter la production boulangère. Nos conditions de travail ne sont plus tolérables. Il existe un climat totalitaire de surpression et d'intimidation de la part de notre gérante qui ne nous laisse pas d'autre choix que de faire la grève. Oui, on arrête de produire le pain que la population de Montreuil consomme. On veut que nos pains continuent à être vendus avec le symbole de la liberté d'une boulangerie qui n'a pas de patron. Nos pains expriment la capacité d'un collectif à se mettre d'accord et à produire une marchandise sans qu'un patron soit derrière nous, à nous exploiter en profitant de notre travail. On veut continuer à être la boulangerie de Montreuil, reconnue comme celle qui fonctionne de manière horizontale et avec de fortes valeurs autour de l'égalité, de la justice, de la démocratie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous révoltons et décidons de mettre fin à des conditions qui vont à l'encontre de nos idées, de nos principes. Nos demandes sont justes et permettront de donner une continuité à ce beau projet auquel nous tenons énormément. On veut, pour nous, la boulangerie entière et pas juste les miettes. On paralyse la production pour mobiliser nos droits et la révolte. On ne veut plus se faire rouler dans la farine, du pain et des roses pour nous toutes et tous. Solidairement, la majorité des salariés de La Conquête du Pain. Et leur demande justement, quelles sont-elles ? Eh bien alors, ils et elles demandent le retrait de la gérance. Je vais vous les citer, en fait, je vais vous les lire comme ils et elles l'ont rédigé. Retrait de la gérance. Nous voulons de la transparence sur les aspects financiers et administratifs de la coopérative. Nous voulons le respect du pouvoir décisionnel des salariés concernant les décisions à prendre au cours des AG des salariés. Le travail que nous fournissons doit être respecté et non dénigré dans des logiques de victimisation et de culpabilisation qui nous forceraient à accepter des conditions de travail intolérables. Nous voulons de la stabilité dans l'équipe. Ras-le-bol de voir nos collègues de boulot partir les uns après les autres dans un état lamentable, génération de salariés après génération de salariés. Nous réclamons la paie des heures sup non comptabilisées alors qu'elles ont été effectuées. Nous réclamons le recrutement de plusieurs personnes afin d'alléger la charge de travail, notamment au fournil. Cela permettrait d'arrêter de faire 60 heures supplémentaires par mois.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme.
60 heures supplémentaires par mois, c'est énorme.
Ah bah t'as une moyenne de 15 heures supplémentaires par semaine.
C'est ça,
donc
ouais.
T'es à 50 heures de travail par semaine. S'ils sont aux 35 heures, c'est même pas sûr. Alors, troisième semaine de grève, hein, ils et elles ont décidé de se faire accompagner par le syndicat solidaire et qu'à côté de ça aussi sont entamées des démarches auprès de l'inspection du travail afin qu'ils vérifient que les conditions de travail dans la boulangerie sont correctes et sans pratique illégale. Alors vous me direz pourquoi ils parlent encore de ça ? Toutes les semaines je vous la fais celle-là, non ? Pourquoi
ouais,
ils parlent de ça ?
C'est un peu ton leitmotiv pour lancer la suite.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis désolé.
Ton gimmick.
C'est ça.
Ton gimmick radiophonique.
Oui. Voilà, bref. Alors déjà, bah, parce que des salariés sont en lutte et qu'il est toujours bon d'en parler, hein, de les soutenir, parce que les grèves sont pas forcément, ont pas forcément lieu tout le temps partout, donc quand ça arrive, c'est très bien. Ensuite, parce que c'est une grève dans un lieu, une entreprise réclamant du communisme libertaire, ce qui n'est pas... on parle pas...
C'est pas anodin.
On parle pas d'Orange,
oui, voilà, c'est
ça. Télécom, alors... de EDF ou de je ne sais qui, etc. quoi.
Ouais, je le dirai après, vas-y, okay. Continue.
Et enfin, l'autre raison, c'est aussi pour continuer cette réflexion qu'on aborde régulièrement hein, dans la causerie autour du salariat. Tu voulais peut-être dire quelque chose maintenant ou tu veux attendre ?
Non, mais en fait, moi, j'étais déjà étonné. Alors, je suis très, très candide, hein, vous savez, des fois, mais...
Ou tu joues le candide ?
Non, là, sur ce coup-là, j'ai été candide. C'est que moi, j'étais persuadé que La Conquête du Pain fonctionnait sans salariat. Alors je vous explique pourquoi je dis ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une coopérative de type communiste libertaire, on peut s'extraire du salariat d'une certaine façon, en fait, en créant quelque chose de très horizontal, où il n'y a pas de gérance, où il n'y a pas de chef et de sous-chef, où les apprentis sont traités comme des salariés normaux, on ne les traite pas comme des apprentis. Voilà, on peut sortir en fait de cette logique qui est une logique de construction capitaliste du monde du travail. Et je me suis rendu compte, en fait, en lisant leur communiqué, et puis j'en parlerai plus tard en lisant le communiqué qui est à vomir, qui a été fait par La Conquête du Pain. Je suis désolé, je vais le dire comme je le pense, et je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Qui fonctionnait non pas comme une coopérative salariée, non pas. En fait, c'est un truc un peu bâtard entre deux, où on s'est un petit peu habitué à avoir quand même un chef sans avoir un chef, et ça peut pas fonctionner de toute façon. Voilà. Et moi, ça. m'a interrogé sur le fait de me dire, bah, moi j'ai vraiment cru à ce projet comme un projet, alors sachant que, je vais le dire ici, hein, je l'ai financé, enfin co-financé, comme plein de gens, hein, parce qu'on avait un appel à l'époque dans les réseaux anarchistes et libertaires pour co-financer ce projet, donc j'ai fait partie des co-financeurs, et moi j'avais déjà remarqué que j'avais eu aucun retour, c'est-à-dire que l'argent, on a su le prendre, par contre un suivi, vous savez, comme moi je fais souvent du crowdfunding, et bah, après quand vous aidez un artiste, par exemple, bah, il vous écrit, il vous dit, bah voilà, j'en suis là, l'album il va sortir à telle date, là rien. Mais rien, alors sauf un mail, je crois, qui est arrivé deux ou trois ans après, pour dire, ça y est, le fournil, il tourne. Oui, ok, cool. Et j'étais déjà surpris de cette façon de faire, parce que quand on appelle un petit peu, voilà. Et là, en fait, je découvre bah, un petit peu le très mauvais côté, et je pense sincèrement que, je vais dire ses compagnons, parce que je pense qu'ils sont quand même honnêtement de mon bord, comme on dit. Et ben en fait, ils ont pris une claque dans la gueule avant de décider de faire cette grève. C'est-à-dire que c'est pas arrivé. Je pense que c'est pas de gaieté de cœur, quoi.
Non, ouais. Non. Et puis, enfin, alors après, j'ai pas tout détaillé, mais les conditions sont assez compliquées de ce que j'ai cru comprendre. Enfin.
Hein, mais tu sais, il y a pas de salariés qui ont plus de 2 ou 3 ans dans.
J'ai entendu que certains qui ont pu partir il y a même pas un an n'ont toujours pas touché leurs indemnités de
rupture.
De rupture. Enfin, il y a quelque chose de très compliqué.
Quand,
donc,
quand une boîte fait ça, on va être très clair. Quand une entreprise lambda fait ça, je peux vous dire, on met le feu. Enfin, cette façon de parler, mais je veux dire, on fait des actions. Ouais. On gueule, oui. on leur fout l'inspection du travail au cul, on les traîne au tribunal. On peut pas se permettre dans nos milieux d'être pire que les patrons qu'on dénonce.
Bah, c'est pour ça que je vais vous partager justement les réflexions que je me suis fait autour de tout ça, parce que ça rejoint un peu tes réflexions aussi. Et je me disais, déjà, ne frôle-t-on pas ici, hein, à la conquête du pain comme dans d'autres lieux, hein, par exemple les assos, les syndicats, etc. Aux limites en fait, du salariat dans des lieux censés être loin de l'exploitation, loin des rapports oppressifs, du moins censés en tout cas lutter contre l'exploitation et contre les rapports oppressifs. Peut-on aussi réellement espérer créer une vraie alternative tout en restant dans le capitalisme, dans le salariat ? Peut-on espérer s'éloigner totalement de l'exploitation avec des salariés dans des boulangers autogérés, dans des bars autogérés et autres AMAP alternatives ? Les rapports de force, hein, peuvent-ils totalement disparaître dans des entreprises, même celles qui peuvent être stimulées par autre chose que le fric ? C'est une question encore. J'en ai beaucoup des questions. Le capitalisme, le pouvoir aussi, ne porte-t-il pas déjà en eux tout ce qu'il faut pour détruire en fait toutes les belles initiatives qui font appel au salariat ? Alors vous le savez, hein, vous le savez certainement si vous nous écoutez régulièrement en tout cas, mais pour moi en fait le salariat fait partie du problème de notre monde et en fait le salariat ne devrait pas et ne pourra pas figurer dans les solutions d'un futur fait de liberté, de solidarité, d'entraide et de non-hiérarchie. Bref, en deux mots, le salariat, autrement appelé contrat de subordination, n'aura pas sa place en anarchie, en fait. Enfin, celui ou celle qui veut me vendre ça, en fait, il va falloir qu'il se lève très tôt parce que le salarié est quand même un des lieux où on abandonne toute liberté.
Bah, une grande part de ta liberté.
De liberté tous les jours, quoi. Donc,
c'est là-dessus que je voulais revenir parce que souvent les gens ne comprennent pas ce que veut dire subordination. Mm-hmm. Quand on se subordonne à quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait on se met en dessous d'eux. Mm-hmm. C'est étymologiquement, c'est ce que ça veut dire. Et en fait, on se plie à des règles qui peuvent être des règles qui sont contraignantes même vis-à-vis de votre liberté individuelle. Donc en fait, c'est qu'on accepte l'idée de perdre en liberté, de perdre en temps, parce qu'en fait, au boulot, on fait pas autre chose, hein, donc voilà, de perdre en fait en capacité de réflexion aussi, parce qu'on exécute, on ne pense pas ce qu'on fait,
on te demande surtout pas.
Parfois on demande, mais c'est rare. Et donc en fait, en réalité, le salariat, c'est une invention qui est issue historiquement de l'abolition de l'esclavage et qui est issue en fait de la question de comment on va pouvoir garder quand même les gens sous la coupe des possédants, parce que c'est ça en fait le salariat, c'est né comme ça en fait, c'est né de l'idée de dire comment on va pouvoir garder sous la coupe une population qui est largement supérieure au nombre de possédants tout en les obligeant à faire ça
mais qui nous rapporte du pognon finalement,
bien sûr.
En plus
que
leur force de travail, parce que finalement l'esclavage, en fait, on usait ton corps, on usait de tout ton être, en fait. Mais derrière, en fait, tu ne consommais pas en plus que tu étais esclavagisé à faire.
Non,
là, le salariat, c'est quand même une étape qui est très intéressante, en fait, quand même.
Ça permet la consommation aussi.
On t'exploite et derrière, il faut que tu rachètes ce que tu fabriques.
Mais en fait,
ce que d'autres fabriquent.
En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réflexion autour de ça, et c'est pour ça que je trouve que cette notion en fait de ne pas interroger ce qu'est le salariat dans nos milieux et qu'en fait on y fait appel trop rapidement ou trop facilement. Et là je vais faire un petit big up à Radio Canut qui depuis 45 ans n'a pas de salarié et refuse d'en avoir, et c'est une volonté politique de la radio. Et on comprend pourquoi, parce qu'en fait on n'a pas envie ni d'avoir quelqu'un de subordonné qui ferait le ménage pour nous, ni d'avoir un technicien ou une technicienne subordonnée à qui on pourrait donner des ordres. Non, en fait c'est collectif, c'est du vivre ensemble, c'est de l'autogestion, et l'autogestion en fait ça repose sur l'égalité de tous et toutes. Et le salariat induit une non-égalité. Donc à partir du moment où vous mettez un système salarial en place, c'est casse-gueule. Et quand en plus vous commencez à glisser sur « oui mais alors moi je suis gestionnaire, oui mais alors moi je suis élu par 66% des gens pour prendre les décisions », vous recréez en fait un système de pouvoir. C'est vrai à la conquête du pain, ça a été vrai chez Scopti aussi en fait, la marque 1336 où aujourd'hui ça se coupe beaucoup. Il y a même des syndicats qui se remontent dans la structure parce que il y a un moment donné, ça marche pas. Donc faut aussi, le combat syndical, c'est le combat aussi pour sa liberté dans l'entreprise. Donc voilà. Et on voit bien qu'il y a un problème qui se crée, c'est qu'on a gardé une structuration qui est une structuration par définition hiérarchisante.
C'est ça. Alors pour revenir justement sur le salariat, oui, je sais, vaut mieux le salariat à l'esclavagisme, oui.
Personne ne dira le contraire.
Vaut mieux le salariat à l'auto-exploitation, de l'auto-entrepreneuriat, oui. Parce que le salariat, ça donne effectivement, comme tu dis, au moins des moyens de lutter. Alors faut s'en saisir, en tout cas, vous êtes dans une posture bien plus aisée. On est dans des positions bien plus aisées que l'auto-entrepreneur ou que l'esclave, en fait.
Plus aisé pour la lutte.
Oui, plus aisé pour la lutte, effectivement. Le salarié donne aussi des protections minimales, mais non négligeables, par rapport à l'esclavagisme et même à l'auto-entrepreneuriat. Donc, évidemment, il n'y a pas de parallèle foireux que je suis en train de faire, qu'on soit bien d'accord. Mais, parce qu'il y a un mais, peut-on réellement être dans une approche anticapitaliste, une approche anarchiste pour certains ? Alors, petite parenthèse, oui, parce qu'on peut être anticapitaliste sans forcément être anarchiste, sans forcément être pour une finalité sans exploitation salariale. Petit clin d'œil aux adorateurs du prolétariat et aux ouvriéristes qui kiffent tellement les exploiter. Je referme la parenthèse. Et donc, peut-on être dans une approche anticapitaliste anarchiste tout en pratiquant le salariat ? Ouais, je vous ai prévenu que j'avais beaucoup de questions.
Mais c'est ce dont on se réclamait, la conquête du pain.
Mais oui, non mais...
C'est là aussi qu'il y a
une question, elle est légitime. Mais encore une fois, j'ai même pas envie de donner de... Enfin, il n'y a pas de leçon. C'est vraiment réfléchir, en fait, à cette chose qui nous est tellement commune, tellement habituelle, c'est-à-dire se lever le matin, ou le soir, ou n'importe quelle heure, mais en tout cas, se lever quasi tous les jours pour aller être exploité et qu'on ne réinterroge pas. Et qu'en fait, moi, je pense que le salariat est une abomination qu'on doit absolument éviter dans tous nos projets qui se veulent anarchistes. Bref, il y a tant d'exemples justement, alors celui-ci évoqué dans cette boulangerie autogérée, d'autres dans des AMAP, on en a déjà aussi entendu, d'autres dans des bars associatifs ou dans des associations sociales, musicales, etc., où les salariés sont dans des situations parfois, si ce n'est souvent, pour ne pas dire toujours, pire que dans un contrat de subordination plus ordinaire. Alors, ordinaire, entendu comme dans une entreprise lambda, avec une hiérarchie assumée et avec des positions sociales, on va dire, assumées, connues et assumées. C'est vraiment... je pense qu'il faut vraiment cogiter autour de ça.
L'exemple qu'on peut donner, et je pense qu'il est parlant, c'est le nombre de salariés d'associations que vous croisez en fait dans des festivals ou des trucs comme ça, et qui vous expliquent qu'en fait ils ont fait leur journée, mais que là le soir en fait c'est bénévole parce que c'est pour la lutte. Sauf qu'en fait, il y a un moment donné, il y a un mélange des genres qui est assez étrange. C'est-à-dire qu'ils ont préparé toute la journée le matos, par exemple, pour venir faire de la prévention, et puis le soir ils viennent, mais là c'est gratos parce que c'est pour la lutte. Il y a comme un malaise qui s'installe. Et puis, de la même façon, on connaît des associations où on va salarier des gens et on va leur dire, en fait, c'est toi qui vas aller chercher les subventions. Et donc, ça revient à dire à la personne qui est salariée, si tu ne trouves pas les subventions, tu vas être viré. Et ça, même mon patron qui, moi, travaille pour une multinationale, il n'a jamais osé me la faire, celle-là.
C'est ça.
C'est-à-dire, tu trouves, toi.
Va chercher le moyen qu'on ne te vire pas.
Non, c'est un truc de fou. Et moi, j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont raconté ça, qui me disaient, moi, je travaille dans une association, mon job, c'est d'aller chercher les subventions, et quand je leur disais, mais donc, si tu n'as pas la subvention, ton job saute. Et on me disait, bah oui, mais ça veut dire que c'est un fusil sur la tempe.
Ah bah c'est oui, oui.
Mais c'est terrible de faire ça à la personne. C'est-à-dire qu'il y a un truc aberrant, et alors c'est d'un cynisme absolu, parce que derrière, si on ne réussit pas, ça peut arriver de ne pas avoir de subvention. On va dire, ah bah t'as pas eu les subventions, bah désolé, tu t'en vas. Bah, enfin, c'est ta faute. Et donc en plus, ça fait porter tout sur une seule personne, au lieu de faire porter au collectif, ce qui devrait revenir au collectif.
C'est ça. Et ben justement, pour continuer dans ces réflexions et dans ces interrogations, justement, combien de salariés dans des structures associatives et autres à ne pas compter leurs heures? Combien de salariés aux heures sup non payées? Parce que bon, comme tu disais, c'est pour la lutte, c'est pour la cause, c'est faut se battre, c'est normal, c'est difficile, oui, bien sûr. Combien aux amplitudes horaires merdiques? Combien aux changements d'horaire de dernière minute? Combien sont dans des conditions de merde, alors qu'il est souvent sous-entendu que l'associatif, c'est justement allier, gagner sa vie et militer, mais quand ce mélange en fait est savamment utilisé contre les salariés, contre des bonnes conditions de travail, contre une bonne qualité de vie, est-ce vraiment encore la si belle situation qu'on vous aura vendue? L'exploitation, le non-respect d'un minimum de règles que les donneurs d'ordre sont censés respecter, est-il plus juste en fait lorsqu'il est en milieu associatif, en milieu autogéré? Est-ce que ça se justifie mieux? Je ne suis pas certain. Alors évidemment, j'ai mes réponses.
Paradoxalement, si. Ça se justifie,
oui, ça se justifie
mais par un mensonge. Quoi.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui est terrible.
Alors j'ai évidemment mes réponses, mais je pense qu'il est justement, encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, important en fait qu'on se les pose chacun chacune, en n'oubliant jamais en fait que le salariat est un contrat de subordination. Il n'y a pas à tiquer que vous soyez dans une asso super sympa ou pas. C'est un contrat de subordination. C'est juste, c'est pas en soi, c'est pas grave. On est tous dans ce lot-là majoritairement, mais juste ne l'oubliez pas. Parce qu'en plus, l'oublier, c'est aussi ce qui évite en fait de se poser la question sur le salariat et de lutter en fait pour une société où on va abandonner ça en fait quoi. Enfin bref. Alors évidemment, pour finir, je souhaite évidemment à celles et ceux qui luttent à la conquête du pain et ailleurs aussi de mener à bien leur lutte, de sortir victorieux et victorieuses de leur lutte, vraiment. Mais cela en fait démontre selon moi la nécessité absolue. De lutter, la nécessité absolue de refuser de se faire marcher dessus par qui que ce soit et où que ce soit, que ça soit une entreprise autogérée ou non, une association ou non en fait. Personne n'a le droit de vous mépriser. C'est un truc, en fait, il faut l'accepter nulle part, en fait.
Dans moi, la vie de tous les jours, d'ailleurs, personne.
Oui, mais on est bien d'accord. Mais c'est que dans le travail, tu as justement ce truc très pernicieux de l'autorité justifierait des choses, en fait. Ah bah moi, j'ai bossé dans le social.
C'est le principe de la subordination.
J'ai pu voir un directeur de centre aboyer sur une secrétaire qui en pleurait, quoi. Et on est dans le social, on est censé faire du créer du lien, émanciper la jeunesse. Mais là, en fait, c'est un leurre, c'est un mensonge. Il y a toujours des petits chefaillons et d'autres, en fait, qui subissent. Et ça, c'était dans du social. Et je l'oublierai jamais. Alors, pour terminer, évidemment,
je vous souhaite une bonne année.
Je vous invite, si vous le pouvez, même à petite hauteur, c'est de participer à la caisse de grève, en fait, qu'ont monté les grévistes de la boulangerie à la conquête du pain. Alors, c'est simple. Dans votre petit moteur de recherche, quel qu'il soit, vous tapez gréviste, conquête du pain, litchi, vous tomberez dessus, sinon vous trouverez aussi le lien dans les articles qui sont sur Paris Lutte Info. Et je pense, on n'en a pas parlé avant, mais je pense qu'on mettra aussi le lien de la caisse de grève sur le blog.
Ah, bien sûr.
Si vous pouvez, si vous avez envie de les soutenir, même si c'est 5 balles, ça sera toujours 5 balles. Donc voilà.
Mais moi, je vais revenir sur le communiqué, parce que j'ai dit que je reviendrai
dessus. Ah oui,
dessus.
Tu as raison.
Alors donc,
Fin juin,
donc je l'avais pas vu, je l'ai vu qu'aujourd'hui parce que par hasard je suis tombé dessus. Comment dire? Alors si je vais le dire avec mes mots et je suis désolé, mais je vais le dire peut-être un peu violemment. Mais
on peut juste rappeler qu'on parle là d'un communiqué
qui est signé par les non, par ceux qui font
par les non grévistes,
Alors. En fait, c'est un peu des communiqués qu'on sent très téléguidés, et notamment par la personne qui a la gérance, on a bien compris.
Ouais.
C'est très, très, très. Alors, je vais vous dire très franchement, même une multinationale, je pense, n'aurait pas osé écrire un truc pareil, et surtout, ils ont fait signer des apprentis.
Oui.
Et alors, ça,
Il y en a deux, hein, sur les quatre qui restent, je crois.
Ça, moi, c'est même pas que ça me fait gerber, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est le comble. Mais alors, l'apprenti, il a aucun droit dans une entreprise quasiment. On va être très clair, hein, que vous soyez une super structure sociale ou par son contrat d'apprentissage, c'est quelqu'un qui est coincé. Il est coincé d'un côté par son école qui lui fout une pression de ouf. Il est coincé de l'autre côté par le fait qu'il faut qu'il reste. Parce que s'il reste pas, il n'a pas son diplôme.
Quand t'es apprenti, t'as quasiment que des obligations.
Il y a que des obligations. Il n'y a aucune porte de sortie. Et alors, vous savez, quand vous êtes apprenti, que faire grève, vous rêvez pas, vous pouvez pas, parce que vous êtes grillé et que derrière c'est fini, vous n'avez pas votre diplôme. Donc c'est des gens qui sont
Qui plus est, là, c'est la période des examens pour un des deux.
Mais ouais, donc c'est quand même un moment où en fait faire signer des apprentis. Mais je vous jure, même une multinationale elle n'ose pas ça, parce que c'est d'une bassesse absolue. Et surtout, alors le communiqué est rédigé d'une façon complètement absurde, avec mais vraiment des éléments de langage que moi je connais par les multinationales en permanence, de la fourniture du pain. Alors c'est attention, nous on continue à faire tourner le fournil,
oui, parce qu'on continue à nourrir les
gens, mais on va arrêter un peu. Alors moi je vais le dire, hein, la conquête du pain, je suis allé la voir parce que je suis régulièrement sur Montreuil. Ouais, alors c'est pas les Montreuillois du Montreuil du bas, hein, qui vont acheter la conquête du pain. Faut pas rêver, parce que c'est du pain bio, c'est cher, et on va arrêter de dire que c'est pas cher parce que c'est cher. On a beau être à Paris, moi je suis rentré dans ce truc, j'ai dit voilà, ouais, à un moment donné on vise quand même les bobos de Montreuil, on vise pas, enfin les riches de Montreuil, j'aime pas les expressions bobos, j'emploie, mais pardon, les gens plus riches de Montreuil, que voilà, on n'est pas en train de nourrir les pauvres, quoi. Et même si après il y a des actions sociales qui
oui, c'est ce que quand même, si, voilà,
ça je n'enlève pas. Par contre, le cœur du truc est obligé de reposer sur le fait de vendre à des gens
mais
qui ont les moyens.
Forcément, en fait.
Ouais, mais sauf que quand on fait un communiqué où on sous-entend qu'on est en train d'enlever le pain de la bouche des pauvres, c'est non seulement dégueulasse, mais c'est surtout faux. Et c'est surtout, c'est une technique très patronale et hyper patronale. Et quand en plus vous faites signer des apprentis, pardon, mais là on touche le fond, quoi. Mais il n'y a pas d'autre mot, on touche le fond. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, toute la vision politique du truc a été oubliée.
Ah bah là, on utilise les mêmes méthodes capitalisto patronales,
les mêmes méthodologies que le MEDEF et que les autres, quoi. Et je veux dire, il y a un moment donné, remettez-vous en question. Que vous soyez pas d'accord au sein de la coopérative, qu'il y en ait qui fassent grève, qu'il y ait des tensions, ça peut arriver. Mais réglez pas ça comme un bon vieux patron de base, en faisant une pétition de salariés, une pétition, je crois, qui est signée par 5 ou 6 personnes, et dans lesquelles il y en a 2 qui ont le fusil sur la tempe.
Je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui ont signé le
fusil.
Voilà,
et dont 2
donc t'en enlèves 2,
deux ont le fusil sur la tempe parce qu'ils sont apprentis, quoi. Non, mais je veux dire, enfin, moi, pardon, mais c'est gerbant. C'est d'ailleurs, il y a un droit de réponse à la causerie, on est, appelez-nous, hein, s'il y a un problème, ouais. Mais il n'y a pas de problème, on vous laissera la parole, on pourra en discuter, il n'y a pas de souci. Mais juste, en fait, à un moment donné, ce truc-là, c'est juste inadmissible.
Bah, ce qui est aussi inadmissible, je ne sais pas si... Bon, de toute façon, c'est sur les réseaux sociaux, donc c'est semi-public. Hein. Mais c'est qu'on a quand même un ancien qui est parti, hein, de cette boulangerie, qui a dit qu'il est revenu pour aider la boulangerie. Donc ça s'appelle un casseur de grève, en fait.
Oui, c'est ça.
Donc quand on se dit anard ou communiste libertaire et qu'on va retourner au taf... En plus, dans un taf qui t'a toujours pas payé tes indemnités de départ, enfin, soit je veux dire, soit t'es maso et t'as le droit, mais va plutôt dans des clubs plutôt que aller casser une grève, en fait, quoi.
Je veux dire, des clubs SM.
Mais ouais, non, mais grave. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de portée politique qui sont absolument dégueulasses, en fait.
Oui, mais c'est là que moi j'aimerais que les gens s'interrogent sur ce qu'ils portent, ce qu'ils représentent et ce qu'ils font.
Voilà. Oui,
et que pour plein d'autres.
Mais oui, oui, hein, et qu'après, on peut aussi être pris d'un coup dans cette machinerie et se rendre compte que le capitalisme, il est plus fort que nous. Et ben alors, ok, et ben arrêtons.
Mais prenons un pas de recul. Surtout.
Oui, c'est ça. Ou alors, assumons qu'on rentre dans un jeu totalement capitaliste avec salariés, etc. Mais juste, oui, il faut se poser, en fait, à un moment donné, il faut se poser et réfléchir, quoi. Quand on parle de 60 heures supplémentaires par mois, mais je veux dire, enfin. Mais ça va même au-delà, en fait, parce que le règlement européen, c'est 48 heures, je crois.
Ah oui,
donc même au-dessus, on va même au-dessus
que
les libéraux européens, ils te disent que 48 heures, même dans nos milieux pour la lutte et pour la cause, on va jusqu'à 50 heures d'heure sup, 50 heures de travail majoritaire.
C'est pas le niveau européen, c'est le code du travail.
Ouais.
C'est 48 heures semaine maximum.
Tu dis non, il y a un vrai problème. Donc voilà, encore une fois, il s'agit pas d'incendier spécifiquement.
Non, mais de s'interroger.
La critique, en tout cas, quand on l'a fait contre une entreprise capitaliste qui aurait ces mêmes agissements, on cracherait dessus comme on le fait là. Donc il n'y a pas lieu, parce que ce serait communiste, libertaire ou je sais pas quoi, qu'on devrait s'abstenir et passer sous silence des conditions absolument détestables. Et que non,
et
en
des
fait.
Méthodes. Moi, je le redis.
On est d'accord.
Qu'il y ait des grèves et qu'il y ait des tensions dans un collectif, je peux l'entendre, ça peut arriver. Qu'il n'y ait pas le même point de vue des deux côtés, ça peut s'entendre, c'est la vie de tout collectif. Ok. Mais là, franchement, la réponse par le communiqué qui a été fait, là, on passe une étape. Je pense que les gens qui l'ont écrit ne se sont même pas rendus compte à quel point ils ont passé une étape, mais qui va au-delà même de ce qu'ils imaginent. Oui. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui, je suis sûr, seront les premiers à les taper sur n'importe, et à juste titre, sur n'importe quel syndicat qui se comporterait mal avec un salarié au sein d'un CE ou d'un CSE ou au sein d'un syndicat. Et ils auraient raison d'aller gueuler sur ce syndicat. Oui. Mais là, en fait, ils utilisent une méthodologie. Mais je vous jure, enfin, allez sur Facebook ou allez sur Twitter, parce qu'ils l'ont mis un peu partout, c'est surréaliste. Ouais. Moi, j'avais presque envie de le rire en dessous. Là, franchement, je sais pas, les copains, si on peut se dire encore compagnons, je vous le dis franchement. Quoi.
Mais des gens qui ont répondu, des syndicalistes, etc.
Bah oui, il y a des moments où voilà.
Voilà. Et ben, on va passer à la musique. Je regarde Clara parce que là, ce soir, je suis un emmerdeur et que vu que c'est sa dernière, je me suis dit, allez, tiens, on va passer un vieux vinyle. Et elle adore ça, Clara, passer des vieux vinyles et même des vinyles tout court, qu'ils soient vieux ou pas. Donc voilà. Donc ça va peut-être mettre un peu de temps ou pas. Et puis ben, on se retrouve juste après. Et voilà. J'espère que vous aussi, vous avez gavoté.
Dagarmat.
Parce que nous, on a gavoté dans le studio. Enfin, on a essayé, parce qu'on le fait très mal. Et donc, on vient...
Surtout, hein, moi, je...
Et c'est, oui, c'est pas... vrai, je danse très mal.
Non, mais tu n'arrives pas à coordonner braille, Jean.
Braille, Jean, c'est impossible. Et donc, c'était donc la gavotte des montagnes des sœurs... Couloirn. Et
ouais,
ça, alors, c'est, je vous ai dit un vieux vinyle, ça date d'un live du Festival de l'Orient de 1973.
Ouais.
Donc voilà, et j'adore ce chant.
C'est appelé Festival des musiques celtiques.
Je ne sais plus.
Quoi,
je crois que c'est déjà le Festival de l'Orient là.
Ah ouais,
je crois.
Ah ouais, bon,
donc voilà.
Ben
bah, merci Clara d'avoir passé cette épreuve.
C'est cool.
Et donc c'est, eh ben, on parlait de Bretagne, on peut sentir un peu les vacances comme ça.
Tu chasses les mouettes.
Pardon. Et ben là, on va partir aussi en vacances,
ouais.
Mais vacances, j'oublie tout. Pas vraiment. Hein.
Ce serait peut-être même plutôt vacances, on n'oublie rien.
C'est ça.
Dans le sens. Alors déjà, on va rappeler qui part en vacances en France, hein, parce que Et c'est souvent, on oublie ça. Alors, il y a que 54% des Françaises et Français qui vont partir en vacances cette année. Et c'est un chiffre qui est à peu près constant depuis la fin des années 90, c'est-à-dire depuis le moment où on a cassé les CE. Et qu'en fait, on a commencé à faire des chèques vacances plutôt que de faire des places achetées. Voilà.
Donc, CE, on rappelle, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ça.
Oui, comité d'entreprise, ouais, pardon, qui maintenant s'appelle CSE, comité social et économique, voilà, mais ouais, ça a changé de nom sous Hollande, mais pas pour le mieux, non, sous Macron, mais pas pour le mieux. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a que 54% des Français qui vont partir, et ils sont moins de 30%, donc de ces 54%, voyez, à partir deux fois par an. Ouais. Voilà. Donc souvent c'est montagne et été. Ouais. Je skie et été. Voilà. Et 29%, bah, par contre, eux partent tous les deux ans. C'est-à-dire une fois tous les deux ans. Voilà. Donc les 46% à ne pas partir cette année, hein, donc voilà, dans les 46% qui ne partent pas cette année, il y en a 6 sur 10 qui ne partent jamais. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est assez énorme hein, quand même. Ouais. C'est-à-dire en gros qu'un gros tiers des Français et des Françaises ne partent jamais en vacances. Quoi. Enfin, un tiers des Français. Voilà. C'est assez un chiffre qu'on oublie souvent. Et surtout qu'à la télé ou dans la radio ou dans les journaux, on parle beaucoup les bouchons.
Ah ouais, oui, c'est incroyable.
Alors que, bah, en fait, ça ne concerne qu'une partie des Français et une minorité qui part chaque année. Voilà, pour être clair.
Oui. Oui, et puis je pense toujours à ces gens qui ne peuvent pas partir et qui doivent se taper des trucs à la télé, etc.
c'est horrible.
Absolument horrible.
Regarde, ils se plaignent parce qu'ils ont des bouchons.
Oui, c'est ça, en fait.
Alors, chaque année, en fait, quand même, on va le rappeler, c'est un enfant sur trois hein, qui est privé de vacances. C'est assez énorme. Voilà. Et notamment, alors, c'est très clair, hein, la plupart des enfants qui sont privés de vacances sont soit en zone rurale, soit dans les périphéries des grandes villes. Voilà. Donc, c'est identifié. Donc, si le gouvernement cherche où ça se trouve, c'est là.
Je crois pas qu'il cherche.
Non, mais voilà. Donc j'en profite quand même, comme chaque année, pour vous glisser un appel à aider le Secours Populaire hein, pour des dons ou de l'aide d'encadrement, hein, si vous pouvez encadrer, pour les aider à faire partir ces enfants qui sont privés de vacances au moins une journée. Ce qui peut en fait, ce qui est peu, hein, mais ça représente beaucoup souvent pour ces enfants-là. Parce que on l'oublie, mais c'est terrible en fait d'arriver à la rentrée et d'avoir la question, et notamment y compris la question de la nouvelle maîtresse qui dit racontez-moi en quelques lignes où vous êtes parti en vacances cette année. Voilà. Éducation nationale, si tu m'entends.
Je crois qu'elle n'écoute pas non plus.
Non, rien à foutre de la cause. Voilà, donc mon sujet de ce soir concerne donc au fond les plus chanceux et les plus riches d'entre nous, hein, très clairement. Autant le dire directement. Alors, comment sont perçues les vacances? Parce que c'est ça qui est intéressant dans ce que je voulais parler ce soir. Donc, il y a plusieurs études et sondages hein, qui ont été faits depuis des années sur les congés et comment ils sont perçus. Étrangement, un sujet semble souvent échapper à cette analyse, comme le soulignent plusieurs chercheuses dans plusieurs universités, c'est la notion de genre. C'est-à-dire que, étrangement, on fait des moyennes, mais on oublie dans ce cas-là de dire quand c'est un garçon et quand c'est une fille. Vous voyez,
oui, mais parce qu'ils ne veulent pas diviser les
voilà,
gens.
Ne divisons pas les gens qui partent en vacances. Voilà. Alors, si on prend les différentes études, elles démontrent que pour les hommes, le degré de satisfaction est pas loin de 80%. Donc, c'est une satisfaction assez haute quand même. Hein, on aime les vacances. Et dans les 20% qui restent, on n'est pas dans « j'ai détesté mes vacances ». On est plutôt dans « c'était moins bien que je pensais ». Vous voyez, donc, on n'est pas dans l'insatisfaction totale. Hein. C'est-à-dire que les vacances, en gros, c'est le pied hein, pour 8 mecs sur 10, hein, pour être clair, qui ont été interrogés, y compris donc en famille, parce qu'il y a des hommes qui sont papa et d'autres qui sont pas papa. Vu que les hommes seuls, hein, d'ailleurs, qui partent en vacances, affichent une satisfaction à peu près équivalente de 84%. Bon, peut-être qu'avec des enfants, on monte de 4%, on baisse de 4%.
Oui, ce que j'allais dire.
Pardon, pas. Non, mais je veux dire, voilà, c'est pas une différence si énorme
ça.
Mais, et c'est ce qui peut surprendre de prime abord, les femmes, elles affichent un taux de satisfaction bien plus bas. Voilà. Dans une étude qui a été menée en France sur 20 000 participantes, hein, je précise bien, ce n'était que des femmes qui ont été interrogées.
Oui, 20 000, c'est pas.
Ah oui, c'est une étude socio, 20 000 personnes, voilà, il y a plusieurs universités qui se sont collées. À la question, vos derniers congés longs, vous les qualifieriez de. Alors, il y avait 4 réponses possibles: génial, satisfaisant, passable ou négatif. Alors, négatif, c'est en dessous de passable. Hein. C'est-à-dire que passable, c'est. Je me suis un peu moins, mais négatif, c'est wow, ça m'a quand même coûté. Et bien, en fait, elles ne sont que 50% à répondre génial. Voilà. 15% satisfaisant, donc on est à 65% de gens qui ont passé des vacances à peu près satisfaisante pour les femmes, 10% de passables, mais surtout 25% à les dire négatifs. C'est-à-dire que nous avons donc 35% des femmes qui passent des vacances vraiment difficiles.
Voyez. C'est horrible.
Oui, mais je le dis parce que c'est important de retenir par rapport aux chiffres que j'ai donnés avant pour les messieurs. Donc on est loin quand même de l'ultra-satisfaction affichée par les hommes.
Hein. Oui, c'est ça, là, voilà. Les mecs ils sont à quasiment 100% de satisfaits.
Ouais, les hommes ils se situeraient entre génial et satisfaisant.
Oui, c'est ça,
voilà,
en fait.
C'est à peu près ça. En affirmant la première cause qui vient, enfin parce qu'elles ont quand même répondu, hein, le pourquoi en fait il y avait ce sentiment-là, la première cause qui vient gâcher les vacances et baisser la note, hein, c'est l'impression de ne pas avoir quitté la maison. Voilà. Alors oui messieurs, je vous vois déjà dire, mais enfin, elles sont au bord de l'océan ou sur une île, c'est pas pareil que chez nous, hein. Pardon. Non mais. Mais oubliez la notion d'impression dans tout ça, parce que c'est ça qui est important, c'est l'impression. Parce que bien sûr, elles sont pas bêtes. Hein. Vous savez, les êtres qui sont à côté de vous, qu'on appelle femmes, elles ont un cerveau. Et elles savent qu'elles sont pas chez elles. Voilà. Non, mais je vous le dis parce que j'ai lu ça, hein, monsieur qui disait ça.
Non, sérieux?
Ah, mais oui, mais c'est du texto. Hein.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est pas moi qui ai inventé la phrase.
Ok, d'accord.
Donc voilà.
Pardon. Donc le mec, il pense qu'il a pas vu que madame, elle est partie de chez elle, elle allait ailleurs.
Ouais.
Elle était pas là, quoi.
Ouais. Okay. Il y a des gens qui font fleur. Bref. En fait, c'est une impression, affirmation qui repose en réalité, selon les répondantes à l'étude, sur le fait qu'elles gèrent exactement les mêmes choses. Le temps, les enfants, la nourriture, le ménage, les loisirs, hein, définir ce qu'il y a à faire, etc., etc., etc. Mais aussi que lorsque c'est un homme qui choisit les activités, il a une légère tendance à privilégier des activités plus individualistes que collectives.
Comme c'est
voilà, renvoyant souvent la femme présente à n'être que l'accompagnatrice, hein, je mets des guillemets à ce que je dis, de ses activités, voire à servir de garde d'enfant trop jeune pour participer.
Mais en fait, je pense que ces hommes, en fait, plutôt que d'avoir une femme, une compagne, en fait, il faudrait juste qu'ils embauchent une nounou. Je veux dire, ça rendrait la liberté finalement à ces femmes, qu'elles arrêteraient de s'emmerder avec ces gros abrutis et qu'en fait, ils pourraient continuer de gambader dans la bac à sable.
Et le second point qui ressort, c'est la sensation d'être un point d'attention trop fort pour le sexe opposé. Alors, ça peut paraître comme ça, dit comme ça, ouh, c'est un peu... Mais en fait, si vous traduisez, hein, c'est tout simplement que vous devenez, quand vous êtes une femme en vacances, une proie pour les lourdeaux des plages qui se sentent, pensent, irrésistibles et autres chasseurs du camping.
Bah, voilà. C'est-à-dire que les abrutis qu'on peut rencontrer dans la rue, dans le métro, dans les bus et un peu partout, au travail, partout...
Bah, ils sont là, mais avec des
tenues. Oui, c'est ça, en fait. Hein, ils partent aussi en vacances. Ouais.
Voilà. Et donc, en fait, ce qui est le plus frappant, c'est que là aussi, on voit qu'en fait, le patriarcat joue à plein, en réalité, et que finalement, vacances ou pas, bah, ils ne lâchent pas les femmes d'une seule semelle et que bah elle se retrouve dans des situations très compliquées et très difficiles. Alors il y a un autre aspect que je voulais aborder sur les vacances, c'est les effets de la publicité. Alors, je passe sur mon premier sujet qui était sur le patriarcat. Autre point qui vient un peu gâcher les vacances, c'est l'effet de mode induit par la publicité ou les émissions de télévisée orientées voyage. Alors il semble que chez plus de 50% des gens qui font un saut en dehors des frontières françaises. Je vous rappelle que ça ne représente que 10% des touristes hein, français. Hein. Ça représente que 10% des 54%. Mmh, donc c'est très peu de gens hein, qui font voyager à l'étranger. Et voyager à l'étranger, si vous avez les moyens en général. Sinon, vous ne voyagez pas à l'étranger. Je ne parle pas des gens, hein, parce qu'on va me dire, oui, il y en a, ils partent avec un sac à dos. Oui, ben, ce n'est pas la majorité. Hein, y a toujours
non, mais
des
même,
exceptions.
Je veux dire, attends, tu m'excuses, mais je veux dire, selon les endroits où tu vas, ça peut te coûter des milliers d'euros juste avec les avions, les trains.
Ouais, tout à fait. Donc,
faut quand même avoir un peu de thunes, quoi.
Donc, 50% des gens qui font donc un saut à l'étranger le font parce qu'ils ont vu une publicité ou une émission sur le lieu où ils se rendent. C'est énorme, hein, une personne sur deux. C'est le taux de prescription en termes de pub qui est le plus élevé. Hein. Problème, ces lieux sont généralement des endroits totalement transformés, du coup, au profit du tourisme, qui n'ont pas vraiment de charme et qui s'avèrent souvent décevants de ce fait-là. Et surtout, je suis désolé, il y a un truc qui me fait tousser ce soir. Quand le voyage se fait sous une forme de voyage organisé ou en groupe, là c'est l'horrible et vous n'avez plus de liberté, même plus du temps. Je vais boire un coup, pardon.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canus 102.2 et la bande FM et sur radiocanus.org et vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canus et Fab a fini.
Fais-moi pas rire.
Bon, il va mourir à cause de moi, quoi. Ouais, mais tu seras au moins mort en riant.
Bref.
Et ça, c'est important. Pardon.
Je continue.
Il reprend son sujet.
C'est terrible ce soir, pardon. Donc, ce phénomène est plus fréquent qu'on le pense. Hein, donc... Et en fait, s'il touche les plus riches d'entre nous, hein, on ne va pas non plus se mentir, il reste quand même fortement symptomatique d'une ère très calibrée où le capitalisme tente de tout uniformiser, y compris nos loisirs et nos vacances. Voilà. Sans parler des nouveaux guides sortis récemment qui vantent des lieux les plus instagrammables ou ceux où on peut faire les meilleures vidéos TikTok. Voilà. Là, on touche du doigt à des aspects terrifiants. Ne plus partir en vacances pour soi, pour découvrir, mais pour mieux se créer un personnage, un monde, un truc à vendre. C'est,
voilà. Oui, et en plus, tu viens servir le capitalisme les influenceurs, les influenceuses, on appelle ça des influenceurs, des influenceuses, mais en fait, ce sont juste des publicitaires en fait, hein, qui bossent pour des marques. Hein.
Donc, rester soi-même, ça, c'est l'injonction du moment. Alors, aussi bien pour ces femmes qui se plaignent au début que pour ces gens qui se plaignent d'être dans des lieux pleins de pubs. Alors le conseil du moment, c'est de rester soi-même pour passer des bonnes vacances. Alors ça, vous avez dû beaucoup l'entendre, parce que ce truc à la mode, c'est le développement personnel, toutes ces conneries-là, on reviendra un jour sur le développement personnel à la rentrée, je pense. Donc voilà. Mais on note assez vite, hein, que le conseil est en fait une façon de figer les choses. Il résout en rien le problème du mal-être des femmes en vacances. C'est pas du contraire. Voire même, ce serait un appel à ne pas se battre contre ce qui est, hein, disons-le clairement, une inégalité des plus gerbantes. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de... Mais sois toi-même.
Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire, si t'es un phallocrate, un macho et un feignant, reste toi-même. En fait.
Alors moi, j'ai presque envie de vous proposer le contraire. Et si on faisait finalement des vacances qui sont ce moment privilégié de temps d'arrêt du travail, temporaire, hein, c'est la notion de vacances. Et si on en faisait un moment privilégié de remise à plat, si celle-ci, ces vacances, pouvaient nous servir à nous parler, à poser les choses, à expliquer ce qui nous déplaît. Les congés offrent ce qu'il y a de plus précieux, finalement, c'est le temps. Cette chose dont on manque tellement quand on travaille. Et le temps, ça peut être celui de la discussion, de la remise à plat, de la redécouverte, de tout ça. Alors oui, hein, c'est pas intéressant sans doute pour ceux, vu que ce sont majoritairement des hommes, qui jouissent d'une position de pacha qui n'a pas grand-chose à faire que de se poser la question de ce qu'il pourrait faire de mieux de façon plus égalitaire. Parce que franchement, lui préfère se demander s'il va aller au concours de Miss T-shirt mouillé du camping ou s'il va boire des coups avec ses potes pendant que madame lave les enfants. Voilà, je comprends que ça peut être compliqué, mais pourtant, ça pourrait être un moyen quand même de vivre une vie de couple un peu plus épanouie et aller savoir, de voir votre compagne faire moins la gueule, hein, parce que quand même, on est en vacances, quoi. Ouais, le truc, faut pas déconner. Pardon, je boto et tout. Et prendre le temps peut aussi être prendre du temps pour soi. S'offrir une journée off, loin de toute contrainte pour soi, n'est pas un luxe énorme, et pourtant, c'est le cas pour 80% des hommes qui sont interrogés. Est-ce que vous avez le temps de prendre une journée pour vous pendant vos vacances? 80% des hommes disent oui, alors qu'elles ne sont que 20%. Des femmes à avoir cette journée off.
C'est pour énorme, quoi.
Ah, l'écart est énorme, oui, ça, il n'y a pas.
Et j'imagine les gars à qui madame devrait laisser, admettons, les enfants. Mais comment je vais faire? C'est-à-dire, comme moi, je fais tout le reste du temps, quoi, en fait.
Mais il est où le bouton pour les éteindre?
C'est quand même dingue, quoi.
Donc voilà, encore une belle inégalité qui perdure. Hein, donc 80% des hommes qui ont au moins une journée off à eux. Parce que vous comprenez, ils sont fatigués. Voilà. Alors oui, je sais, j'avais promis de parler de vacances et me voilà encore à vous parler de capitalisme et de patriarcat. Je sais, c'est pas marrant, mais que voulez-vous ? On est comme ça à la causerie. On sait que le capitalisme et le patriarcat, ils prennent pas vraiment de vacances. Voilà.
C'est tout à fait ça. Voir si t'as pas de chance, tu te ramènes un mec patriarcal avec toi en vacances.
Ou tu le trouves en vacances.
C'est absolument horrible, quoi. C'est hyper intéressant, ce genre de... En plus, c'est une étude, quoi. On n'est pas sur sondage de 1000 personnes, etc. Donc on est quand même sur quelque chose de plus solide.
En plus, je trouvais ça intéressant parce que dedans, il y a plein de trucs. Alors j'ai vu qu'il y avait des journaux qui en ont extrait des morceaux parce que, voilà, on fait tous la même chose. Je ne suis pas journaliste, mais tout le monde fait un peu ça. On va chercher des trucs. Il y a des études qui sortent où on trouve intéressant. Et c'est mon cas, hein, quand je fais des chroniques, souvent je me base sur des trucs qui sont sortis. Et là, il y a des journaux qui, par exemple, ont sorti des phrases que je trouve géniales, du genre c'est vrai, elle s'occupe de tout, mais moi j'ai conduit pour venir quand même. Oui, c'est un truc de... Ouais, des phrases comme ça, je trouve, mais juste génial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est voilà, tu dis et le reste des 15 jours qui suivent, t'as fait quoi? J'ai conduit pour dire.
Il se prépare pour le retour.
Ouais. Donc il y a ça. Et en fait, il y a plein de phrases comme ça qui ont été sorties parce que ils en ont mis beaucoup. Et je me suis dit, mais quand même. Enfin, je vous jure, il y a des trucs. Et le coup de faut arrêter de faire la gueule, on est en vacances quand même. C'est une phrase que les femmes disent, entendent très régulièrement. C'est une façon pour elles souvent de montrer que, en fait, là, ça va pas, quoi.
Mais c'est ça qui est ouf, en fait. C'est que tu dis qu'en fait, il y a quand même beaucoup de mecs qui en fait n'écoutent absolument pas, n'observent absolument pas, enfin ne se remettent pas du tout en question.
Ah
en
ouais,
fait.
Clairement, ouais. Enfin, on est loin d'une ère où tout serait parfait.
Ah non, mais
comme on peut l'entendre, il y a des gens qui disent ça y est, on est post-MeToo, tout
ouais,
va mieux.
T'as raison. Ouais.
C'est pas vrai. Et clairement, toutes les études qui sont faites sur les loisirs démontrent notamment que les hommes ont beaucoup plus accès aux loisirs en général que les femmes, parce que les femmes justement sont bloquées par des contingences.
Elles sont enfermées dans le rôle de
exactement.
De mère.
Et rien que ça, c'est juste surréaliste, quoi. Je veux dire, voilà quoi. Moi, je me souviens d'une collègue de travail, parce que elle m'écoute, coucou, qui m'avait dit, mais moi, je peux plus aller au cinéma, j'ai deux enfants. Alors moi, je croyais que c'était pour le prix du cinéma, parce que je suis un peu bête. Hein. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai que ça fait cher. Mais non, bah non, j'ai pas le temps. Et en fait, c'était étrange. Je me suis dit, bah oui, mais t'as un mari. T'as envie d'aller voir un film.
Qui est potentiellement le père des enfants.
Ouais, qui est son père. Qui, en l'occurrence, est le père des enfants. Je dis, bah, il peut bien garder les enfants une soirée si tu veux aller au cinéma, toi. C'est pas un truc.
Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est les mecs, d'un coup, c'est la panique, quoi. Faut que je m'occupe de mes enfants à autre chose que de jouer. Bah ouais, en fait, être parent, en fait, c'est plus complexe que juste jouer avec eux.
Non, mais c'était étrange. Voilà.
Je crois qu'on avait déjà parlé de ça, justement, des papas qui finalement sont là pour le loisir. Hein. C'est-à-dire, mais
ouais,
pour tout
encore,
le reste.
C'est encore une des choses, d'ailleurs, qui ressort de plus en plus et je pense qu'il va revenir, on en reparlera hein, je pense. Mais effectivement la notion du fait que oui bah je m'occupe de mes enfants parce que je les emmène au foot par exemple oui. Sauf qu'en fait bah, c'est pas que ça enfin, derrière,
c'est
y
qui
a
leur
aussi,
fait à bouffer, voilà, qui leur lave leur linge, qui les couche, qui les...
Enfin, c'est cool quoi, tu les as emmenés au foot, c'est cool.
Ouais c'est ça.
C'est bien.
Bon. Passe à la zic.
Ouais en plus ça fait mal aux oreilles.
Ah oui alors, faites
mais
attention.
Mais ça va être bien, vous allez voir. Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org. Et oui, parce qu'il y a Jean-Yves qui parle plafond. Ça, vous entendez. Oui, je dis tout. Alors, on vient d'entendre un petit peu un groupe de power metal. C'est bien le power metal. Ça vous nettoie les conduits auditifs.
Ah ben là, pour être nettoyé, voilà. Ils sont...
Et donc, c'était Beast in Black qui sort son nouvel album avec le morceau Hardcore. Voilà. Et je fais un big up à Laurent qui déteste le power metal. Voilà. C'était juste... Voilà. Écoutez Noise Pollution si vous voulez du métal autre.
C'est ça.
Voilà.
Des années 80-90.
Oh, qu'il est
méchant. Non, c'est pas vrai. Et ben voilà, de toute façon, on est à l'heure en plus, donc oui. C'est formidable. Je crois qu'on n'a pas vraiment
si,
de...
Si, moi j'ai une petite brève. Alors, il y a, vous savez, les mineurs qui ont été expulsés de squats finalement. Enfin, c'est un peu compliqué.
Oui, il y a un squat qui avait pris feu, donc voilà, ils ont été relogés.
L'autre a été vidé. Ouais. La métropole s'était engagée à prendre tout le monde sous son aile et que ça allait tout bien se passer. Bon, ben, les promesses politicienne voilà.
N'engage que ceux qui
y croient, malheureusement. Et donc, du coup, bah, voilà, y a plein de gamins qui se retrouvent de nouveau être obligés de dormir dans des tentes. C'est un peu compliqué pour eux. Ils sont emmerdés parce qu'on les fait bouger d'un point à un autre. Ils n'ont pas de ticket TCL.
En fait, c'est
très compliqué. Enfin,
en fait, ceux qui ont été, on va dire, pris sous l'aile des institutions, il y en a qui sont jusque dans l'Ain.
Ouais,
vous
voilà,
voyez,
quoi.
Ils étaient 30, 40 logés ensemble. Il y a quand même une notion de collectif groupe qui a réussi à tenir dans les coups durs. Et bien là, en fait, on les a éclatés à travers tout Lyon et comme bien plus loin. Et ce qui fait que, oui, et en plus, ils n'ont plus de tickets TCL comme ils avaient avant. Ils avaient droit à des tickets, etc., qui avaient été négociés. Et en fait, là, ils se retrouvent avec plus rien, éclatés aux quatre coins de Lyon.
Donc, moi, je vous invite à aller voir le collectif Collège Maurice Sèvres sur les réseaux sociaux, vous les trouvez facilement, ou les Chemineurs, ou chez Gemma.
La page a été
fermée, pardon, j'ai pas fait attention. Allez les voir ce dont ils ont besoin. Il y a besoin de choses basiques, comme des tickets de bus, des choses comme ça. Il y a besoin de choses moins basiques, mais que vous pouvez avoir, comme des sacs à dos, des trucs dans le genre. Parce que, quand on est déplacé d'un point A à un point B, c'est quand même pratique d'avoir des sacs pour transporter ses affaires. Voilà. Donc voilà. Et encore une fois, on a une belle démonstration quand même que quand la métropole prend les choses en main, elle ne prend pas vraiment la notion des besoins réels et qu'une fois de plus, on fait de l'affichage, mais on va pas au bout des choses et on laisse jusqu'à une vingtaine d'enfants, parce qu'on va dire clairement, c'est des gosses à la rue. Et voilà.
Oui, et il faut savoir qu'en fait, on en avait parlé quand on avait reçu le collectif, en fait. Il faut qu'ils démontrent le fait qu'ils sont mineurs, etc. C'est souvent rejeté une première fois, ensuite il faut qu'ils aillent devant la justice, etc. Et tant qu'en fait la justice n'a pas dit, et c'est dans 85% des cas, au moins on leur dit en fait ils sont mineurs. Et ben en fait tout ce laps de temps, en fait, et ben on n'en a rien à foutre en fait. Alors pas les collectifs qui s'en occupaient, mais les institutions.
Oui,
donc
ça.
En fait ce qui fait qu'effectivement il y a entre 20 et 40 gamins qui sont à la rue à cause de ça, parce qu'ils attendent les retours de la justice, parce qu'ils attendent une démonstration de leur minorité, etc., etc. Donc c'est juste une démonstration qu'en fait que vos mairies, que vos métropoles, que vous, tout ce que vous voulez, soit de gauche, de droite, de tout ce que vous voulez, en fait, il y a que du mépris pour tous ceux qui n'ont pas les bons papiers. Il y a aussi un squat qui a été viré, je sais plus dans quelle région, autour de Paris, je crois, par une mairie communiste. Voilà, continuons d'aller voter, de remplir leurs unes pour qu'ils continuent de nous mépriser avec toute... tout le pouvoir que vous leur aurez donné.
Et comme c'est la semaine de la lyonnaiserie, il paraît, j'ai vu ça, oui, c'est que voilà, je vais rappeler un truc que Guignol disait, si t'y fais dormir des enfants à la rue, t'y mérites bâton dans le cul. Voilà. Donc, ça veut dire donner des coups de bâton, se l'enfoncer, Donc voilà, mais c'était juste pour, rappeler que Guignol aussi, il avait déjà à l'époque, en 1865,
il disait des mots justes.
Des trucs assez simples. Donc du coup, voilà, et la deuxième info qu'il y a, et que je vous invite à voir, c'est qu'il y a plusieurs collectifs qui continuent à se réunir à la Lutine et ailleurs, donc des collectifs d'entraide de soins, des collectifs d'entraide de galériens
administratifs.
Je ne vais pas tous les citer là, vous pouvez tout trouver sur Rebellion, mais voilà, je trouve super cool qu'ils continuent à maintenir leurs activités durant l'été. C'est pas facile, c'est fait souvent très bénévolement, donc voilà, et donc n'hésitez pas, vous pouvez les trouver sur Rebellion, et si vous ne les trouvez pas, allez voir sur la Lutine ou autre, enfin dans les lieux. Souvent, c'est affiché.
Voilà. C'est tout à fait ça. Et ben nous, on vous donne rendez-vous, en tout cas Fab et moi, on vous donne, et Clara qui lève les yeux, c'est là qu'un grand sourire, on vous donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine.
Oui, parce que Clara, donc on a bien reçu ta demande de congé en 3 exemplaires, et ils te sont accordés.
Allez, le patron est bon, hein.
Mais je suis pas sûr de revenir.
Hein. Ah voilà, c'est toujours pareil, ces tirs au flanc.
Et non, mais en tout cas, bonnes vacances à toi.
Bonnes vacances. Merci. Et puis, Clara, on te retrouvera, les auditeurs et auditrices te retrouveront dans quelques semaines. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine.
Ouais.
Et en attendant, on va se quitter en musique. Et c'est toi
avec Thylacine, oui. Le nouveau titre de Thylacine qui s'appelle Bosphorus.
Yes. Eh bien, bonne écoute, bonne semaine à vous toutes et tous. Bonnes vacances si vous en avez. Sinon, bon courage au taf et à toutes ces choses qui nous oppressent. Bon courage, des bisous.
Des bisous.
Ciao.
Ciao, ciao.